Éric Bataillon.
Bonjour. L'épopée de Gilgamesh est le plus ancien texte écrit connu de l'histoire de l'humanité. Elle raconte les aventures d'un roi en Mésopotamie, voici plus de 5000 ans. Un homme tenté par l'immortalité et qui découvre finalement la fragilité, l'humilité. Abed Azriyeh, auteur, chanteur et musicien franco-syrien, s'est emparé depuis longtemps de ce texte. Il nous dira pourquoi. Un texte qui a inspiré bien des livres, dont la Bible. L'épopée de Gilgamesh est un exemple de la continuité des civilisations depuis les rois sumériens, un texte à protéger absolument de la barbarie et de la destruction. Assure également la revue de presse Regards croisés sur Israël et le monde arabe avec Christian Brunel à Jérusalem et Alexandre Bouchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
وهبته الحسن والجمال وحدد الشجاعة والإقدام.
L'épopée de Gilgamesh est un récit légendaire de l'ancienne Mésopotamie. Elle fait partie des œuvres littéraires les plus anciennes de l'humanité, la première version complète connue ayant été rédigée en akkadien dans la Babylonie du 18e ou du 17e siècle avant Jésus-Christ. Écrite en pictogrammes sur des tablettes d'argile, cette épopée s'inspire de plusieurs récits, en particulier sumériens. Elle a pour origine des récits mythiques ayant pour objet principal le roi Gilgamesh, 5e roi de la première dynastie d'Uruk, entre 2700 et 2500 avant Jésus-Christ, et vous nous en livrez une version adaptée en français. Abed Azriyeh, bonjour.
Bonjour.
Auteur, compositeur et chanteur de langue française et arabe, vous êtes né à Alep en Syrie. Ce n'est pas la première fois que vous travaillez ce texte de Gilgamesh, puisque vous l'avez déjà mis en musique. Abed Azriyeh, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette épopée ?
Il y a eu une version, la première qui était sortie en langue française, en 1977. J'ai lu deux lignes qui construisent des maisons qui durent pour toujours, qui scellent des contrats qui durent pour toujours. C'était à peu près deux petites lignes comme ça. Et j'ai cherché l'origine de ces deux vers. Je croyais que c'était d'un poète irakien, ou syrien, en tout cas moyen-oriental de nos jours. Et tout d'un coup, je vois en bas, épopée de Gilgamesh, texte suméro-babylonien. Ça m'a bousculé beaucoup, vraiment. Je pouvais plus dormir, je voulais voir c'est quoi ce texte. J'ai cherché une version libanaise, à l'époque, qui était traduite de l'original, qui était assez lacunaire, enfin elle avait de petits problèmes. J'ai vu après la version de Tahabak, c'est-à-dire l'Irakien, qui était beaucoup plus complète, mais la langue était moins belle. Et petit à petit, j'ai lu à ce moment-là des versions de René Labat, de Georges Conteneau, etc., en français, en anglais. Et c'est devenu un peu le temple de ma vie, c'est devenu mon église, ma mosquée, mon synagogue, enfin, tout ce que vous voulez. C'est le lieu de ma prière, de ma vie, de ma cuisine, de tout. Je ne pensais à plus rien d'autre. Et j'ai passé 7 ans. À aller au musée du Louvre, dans la salle de Goudéa, ce roi qui a régné 25 années sans aucune guerre, parce qu'il a dépensé l'argent de l'État pour faire de la culture, pour copier des textes, faire des temples, ce qui prouve que la culture, quand même, peut aider à s'éloigner des guerres. Et voilà, au bout de 7 ans, j'ai fait un disque, un premier enregistrement, que Henri Gougaud, un jour, le passait à France Inter. Et dans le livret de 2 disques, c'était 2 disques vinyles, il y avait un livret en anglais, en arabe et en français. Et Henri Gougaud m'a contacté, il m'a dit, mais il faut publier, c'est très beau, vos versions-là. Oh, je dis, c'est une traduction pour la version chantée. Et finalement, il m'a poussé, il m'a encouragé, et j'ai fait la version du livre de cette époque-là.
يشكو من أكيد الذي يخرب مصائده ويعين الحيوان على الفرار منها بهذه الشكوى يأتي الصياد إلى والده وبعدها إلى جلجامش فينصحاه باصطحاب غنية من المعبد فالغنية تروضه.
Alors, cette épopée, que raconte-t-elle précisément ?
Écoutez, c'est l'histoire d'un homme qui est tyrannique, qui règne comme beaucoup de tyrans dans l'histoire, et tout d'un coup, une rencontre lumineuse dans sa vie, la rencontre d'un ami, qui va un peu le détourner de cette tyrannie, et il va l'amener pour réaliser ses rêves, de faire un grand voyage dans la montagne des cèdres, pour récupérer le bois, qui était très précieux pour l'époque, pour toutes ces civilisations, parce que c'était le seul bois qui résistait à l'eau salée de la mer. Donc, ils voulaient obtenir ce bois de voyage. Donc, ils vont aller à la forêt des cèdres. Et ils vont dépasser avec des mesures les lois des dieux, qu'il faut pas y aller là-bas, il faut pas tuer le gardien de la forêt des cèdres, Umbaba. Et finalement, ils vont le faire, et évidemment, ils vont attirer la colère des dieux. Enkidu, son ami, va être condamné à mort pour le punir, et Gilgamesh va avoir une sorte de conscience de sa fragilité, de la mort, parce qu'avec sa tyrannie, son pouvoir, il n'a jamais pressenti la mort. Et tout d'un coup, il ne va plus vivre que pour cette idée de se débarrasser de la mort. Il va faire une quête extraordinaire pour chercher l'immortalité, la plante de l'immortalité. Il va la trouver, mais il va la perdre à nouveau parce qu'un serpent va lui ravir. Et à travers ce récit, il va rencontrer l'homme que les dieux ont récompensé de la plante de l'immortalité. Il est devenu éternel. Il lui raconte l'histoire du déluge, comment l'humanité a péri un jour à cause justement de. Donc c'est l'histoire qu'on connaît même dans la Bible plus tard.
Alors justement, il y a un lien visible entre l'épopée de Gilgamesh et d'autres textes anciens, dont l'Ancien Testament de la Bible.
Ah bah, fondamentalement,
il y a une filiation directe.
Vous savez, dans l'Ancien Testament, il n'y a rien de nouveau. C'est un livre de compilation. Donc, vous voyez, dans l'Ecclésiaste, il y a des passages qu'on trouve dans Gilgamesh. Absolument, il n'y a pas que le déluge. L'histoire d'Enkidu et Gilgamesh, leur combat, c'est l'histoire de David et Goliath. Enfin, si vous voulez, les Sumériens, à l'origine, ont créé des modèles, des archétypes que toutes les civilisations, plus tard jusqu'aux Grecs, jusqu'aux nos jours, ils vont bâtir les mêmes histoires, mais avec une structure, la même structure, mais avec une façon de parler différente. Donc, si vous voulez, les histoires qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, qu'on le trouve dans le Coran, qu'on le trouve très peu dans les évangiles, parce que les évangiles ne se sont pas occupés de ça. C'est l'Église qui s'est occupée de ça. Parce que, au fait, l'Église s'est inspirée beaucoup de l'Ancien Testament. Et à partir de ça, on a énormément de récits, qui viennent de Sumer, Babylone et Assur.
Alors, il y a environ 4000 ans, 3500 ans, il y avait à Babylone une vie qui était culturelle, qui était, semble-t-il, foisonnante. Et c'est ce qui nous a permis peut-être d'avoir aujourd'hui des traces de ce récit de l'épopée de Gilgamesh.
Mais même avant Babylone, vous savez, si on voit le livre de Noah Kramer, l'histoire commence à Sumer, c'est un petit manuel de savoir comment était la vie à cette époque-là. Je dirais même que c'est choquant. Rien n'a changé. Vous voyez, moi je suis surtout, enfin, en même temps, traducteur, adaptateur et à la fois musicien. Dans la musique, par exemple, dans l'orchestre, la formation de l'orchestre sumérienne, rien n'a changé. On avait des instruments à cordes, des instruments à percussion, des instruments à souffle. Donc, la symphonie existait, mais pas sous la forme de la symphonie. La structure de l'orchestre était la même. Ils avaient ce qu'on appelle, par exemple, si vous voyez les frises et le bas-relief au Louvre, ou dans d'autres musées, au British, ou à Bagdad, autrefois, avant la guerre de l'Irak, ou en Syrie, vous voyez, par exemple, plusieurs harpes dans l'orchestre, plusieurs flûtes, plusieurs percussions, tambourins. Mais tout cela, c'est étonnant parce qu'on voit les tambourins, ils n'ont pas la même taille. Les harpes n'ont pas les mêmes tailles, les flûtes non plus. Tout cela crée ce qu'on appelle, ce que Ravel plutôt appelait, l'harmonie de timbre déjà. C'est-à-dire, ils ne faisaient pas de l'harmonie, mais ils faisaient l'harmonie de timbre. C'est-à-dire, s'ils avaient une note comme un sol ou un do, je ne sais pas ce qu'ils avaient comme note. Mais en tous les cas, ils avaient des notes. Donc ces notes-là, quand on tape sur le même instrument, la même note, n'avait pas la même résonance. Donc on faisait ce qu'on appelait à quatre harpes, quatre notes différentes, mais qui est la même note. Donc ça faisait l'harmonie de timbre. Déjà, c'est énorme, déjà, si vous voulez. C'est déjà la base même, l'archétype même de la musique.
تزوجتك أقدم لك زيتا ثيابا فاخرة خبزا طعاما كمدفأة أنت لا تنطفئ إلا أيام الصقيل
Aujourd'hui, quel enseignement peut-on tirer de cette épopée de Gilgamesh? Comment résonne-t-elle par rapport à nos civilisations?
Je pense d'abord, elle enseigne à l'individu, elle donne une leçon de sagesse. Et que l'homme, avec sa démesure, il a été si vous voulez, Enkidu, il est mort à cause de sa démesure avec Gilgamesh. Ils ont dépassé les lois. Et je pense, dans toute civilisation, il y a des démesures. Les Grecs ont connu ça. Achille, Ulysse, tous, ils l'ont connu. Et l'être humain, tout simplement, il a des démesures en permanence. Notre civilisation, elle est démesurée. Elle va vite, elle va loin. Et je pense, un texte comme celui-ci aujourd'hui nous donnera une leçon de sagesse, de se calmer, de nous prendre pour nous-mêmes, de ne pas nous prendre pour quelqu'un d'autre.
Alors justement, cette épopée se passe dans une région qui est aujourd'hui extrêmement troublée. Est-ce qu'il y a de la démesure aujourd'hui en résonance donc par rapport à ce texte de l'épopée?
Vous savez, la vente d'armes a toujours existé, les guerres ont toujours existé. Quand on dit à qui profite le crime, on saurait qui fait ces guerres. Mais ces guerres ont toujours existé. La guerre, malheureusement, en tant qu'il y a eu des histoires d'amour, des histoires de fraternité, dans l'histoire de l'humanité, il y a aussi autant de guerres, de haines, etc., qui sont montées, surmontées, le nationalisme, la religion, mais si vous voulez, l'arrière de tout cela, c'est quand même l'intérêt, c'est toujours les finances. Donc moi, je n'ai jamais cru, par exemple, actuellement en Irak, en Syrie, quand on parle de chiites, de sunnites, de chrétiens, de yézidis, pour moi, c'est monstrueusement faux. Parce que, comment ça se fait que depuis que l'islam est né, depuis le 7e siècle, toutes ces communautés, c'est-à-dire chiites, sunnites, alaouites, druzes, etc., ils ont toujours vécu ensemble. Jamais on a entendu un mot l'un contre l'autre. Chacun vivait ses habitudes comme il voulait. Il avait ses rituels, il avait ses rites, il avait ses fêtes. Mais, vous savez, aujourd'hui, si on veut faire une guerre entre les Bretons et les Alsaciens, c'est très facile, hein. On peut le faire. Parce que l'Alsacien se prend pour un Alsacien, et le Breton aussi. Le Proche-Orient, c'est vraiment une sorte de plateau extraordinaire de races, de gens, d'origines, de cultures. C'est incroyable, incroyable. Et on a voulu aujourd'hui, pour des raisons que j'ignore, ou qu'il y ait un autre lieu pour en parler, je pense que ce sont des mains de l'étranger qui ont fait tout ça. Moi, je ne crois pas. Ce sont des guerres internes, locales. Je ne crois pas.
En tout cas, il faut protéger l'épopée de Gilgamesh et la conserver précieusement.
Avec ses griffes même, je veux dire. Plus que jamais, il faut s'attacher à ses identités humaines. Ce sont des identités humaines. Et je pense que si les gens font toutes ces guerres-là, c'est parce que c'est une grande preuve d'une perte d'identité.
إلى الأبد من يقطع عهدا يدوم إلى الأبد.
Merci Abed Azrieh, auteur, compositeur, chanteur de langue française et arabe. Votre épopée de Gilgamesh est publiée chez Albin Michel dans la collection Spiritualité Vivante et l'ouvrage est disponible dès cette semaine.
Tout à fait.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bucianti et Christian Brunel pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Christian.
Bonjour.
Alexandre, la photo d'Elan Kurdi, l'enfant syrien retrouvé noyé sur une plage turque en Méditerranée, suscite de nombreux commentaires dans la presse arabe.
Oui, et un de ces commentaires, c'est « Pourquoi est-ce que les réfugiés arabes trouvent-ils que Berlin est plus proche que la Mecque ?» Alors, c'est le titre de l'éditorial d'Al-Quds Al-Arabi. Le journal répond à la question en expliquant que les riches pays du Golfe n'ont accepté que les réfugiés 5 étoiles, des hommes d'affaires, des médecins, des ingénieurs et autres cadres supérieurs qui ne sont pas des réfugiés. Les portes étaient par contre fermées à double tour pour les vrais réfugiés, ceux qui se pressent aujourd'hui, selon le journal, aux portes de Budapest, Vienne et Berlin, ainsi que Calais. Et pour le journal, cela est dû à la structure sociale de pays comme l'Arabie Saoudite, qui ne perçoit les étrangers que comme des serviteurs dont le grade s'établit en fonction des nationalités. Alors le journal égyptien Al-Maqal, lui, se moque de l'extrémisme de l'idéologie wahhabite, qui fait que des musulmans préfèrent risquer l'enfer de la traversée vers les mécréants que d'attendre indéfiniment devant les portes fermées du paradis du Saint des Saints de l'Islam.
Alors Syrie toujours, Alexandre, mais cette fois Homs, où selon le journal Al-Ayat, le groupe État islamique poursuit ses exactions contre les chrétiens.
Oui, le journal indique que Daesh, le nom du groupe État islamique en arabe, a donné aux chrétiens le choix entre trois possibilités. Payer la jizya, qui est la taxe imposée aux non-musulmans durant le califat islamique, la conversion à l'islam ou le départ sans bagage. Alors, n'accepter aucune des trois propositions, c'est tout simplement risquer la mort. Et selon le journal, un certain nombre de chrétiens a déjà commencé à payer l'impôt, tandis que les moins fortunés des Syriens ont commencé à partir pour un voyage périlleux qui va les mener, s'ils ne meurent pas, comme réfugiés en Europe.
Christian Brunel, la découverte d'un champ gazier très important en Égypte donne des vapeurs aux médias israéliens.
Effectivement, cette annonce surprise a fait l'effet d'une véritable bombe. Israël devait fournir du gaz à l'Égypte grâce à deux gisements situés également en Méditerranée. Or, les Égyptiens vont apparemment se suffire eux-mêmes et se passer du gaz israélien. Comment ont-ils eu le culot de nous faire cela ? S'interroge sur le mode ironique le quotidien gauche à Haaretz. Selon la radio publique, le gaz avait vocation à jouer un rôle économique, mais aussi stratégique en renforçant les liens avec l'Égypte et, je cite, en contribuant à la stabilité du régime du président Sisi. Sur le front intérieur, Benjamin Netanyahou exploite cette découverte en Égypte pour tenter d'accélérer l'adoption d'un plan d'exploitation des champs gaziers israéliens, dénoncé par l'opposition et les médias, parce qu'il serait beaucoup trop généreux pour les groupes américains et israéliens qui ont obtenu la concession d'exploitation.
Également, Christian, la police israélienne serait de nouveau sur la sellette.
Oui, tous les médias ont fait leur une cette semaine sur le choix de Gal Hirsch comme prochain patron de la police. Cette nomination a provoqué une levée de boucliers au sein de la police et suscité d'innombrables éditoriaux. Gal Hirsch n'est en effet pas du Sérail, ce n'est pas un policier, mais un ancien général d'armée. De plus, il a été durement mis en cause pour des défaillances lors de la guerre au Liban contre le Hezbollah en 2006. Les journaux ont également révélé qu'il a été conseiller d'une entreprise privée d'exportation d'armes et serait soupçonné d'être impliqué dans une affaire de corruption d'un ancien ministre de la Défense en Géorgie.
Beaucoup d'intérêt dans les journaux arabes, Alexandre Bouchanti, pour les préparatifs des premières élections législatives en Égypte depuis plus de 3 ans.
Oui, et les journaux indiquent que déjà près de 4000 personnes ont présenté leur dossier de candidature pour les quelques 600 sièges du Parlement. Alors les journaux soulignent que seule une minorité infime a déjà subi les tests médicaux exigés, c'est-à-dire dépistage de l'usage de drogue et capacité mentale. Alors l'occasion évidemment de bien des sarcasmes. Et selon leur appartenance, les journaux mettent en garde contre les salafistes qui veulent être la plus grande formation politique du Parlement, le retour des Moubarakiens ou des sous-marins frères musulmans et aussi des hommes d'affaires qui s'apprêtent à acheter leur siège.
Toujours au chapitre élection, Alexandre, municipal cette fois en Arabie Saoudite, où les femmes seraient la grande inconnue selon Al-Sharq Al-Awsat.
Oui, puisque pour la première fois, les Saoudiennes ont en effet le droit de présenter leur candidature au municipal, même si, selon le journal, les conservateurs leur font une guerre sans merci via les médias sociaux. Alors, 2/3 des sièges sont à pourvoir par des élections et le tiers par nomination royale. Alors, même si leurs chances d'être élus sont faibles, le journal salue ce qu'il estime être un acquis important pour la femme saoudienne.
Pour conclure, Christian Brunel, vos médias font état d'une guerre, la guerre du Shabbat.
En effet, le sacro-saint repos hebdomadaire du judaïsme, durant lequel il est interdit du vendredi soir au samedi soir de travailler, de conduire, d'allumer l'électricité, est au centre d'une véritable bataille sur 3 fronts. À la demande des joueurs religieux de football, un tribunal a interdit les matchs le Shabbat. La fédération israélienne a aussitôt lancé une contre-attaque en menaçant d'annuler toutes les rencontres si cette mesure n'était pas levée. La municipalité de Jérusalem, sous la pression des ultra-orthodoxes, a, elle, annoncé son intention de fermer 8 supérettes ouvertes samedi. Comme le soulignent les médias, les ultra-orthodoxes mènent au score, du moins pour le moment. Reste à savoir s'ils remporteront toutes les parties engagées.
Match à suivre donc. Merci Christian, merci Alexandre. François Porcheron a réalisé cette émission que vous pouvez réécouter sur le site de la radio www.rfi.fr rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. Bonne semaine, à samedi prochain, tout de suite, un nouveau journal sur RFI.